Voilà, le Christ est ressuscité, c'est notre foi fondamentale. Et l'enjeu, c'est d'entendre cette affirmation de saint Paul. Nous vivons en ressuscité, dans le Christ, nous sommes ressuscités dès maintenant. Et il y a la liturgie de l'Église, justement, nous donne du temps pour imprégner cette grâce, cette joie du ressuscité qu'il veut communiquer. Pendant 8 jours, tout l'octave, là, jusqu'à dimanche prochain, nous allons demeurer dans la résurrection. C'est comme un seul jour. Tous les jours, on va entendre un évangile d'apparition du ressuscité. Et c'est dimanche prochain que, au milieu des disciples enfermés encore par peur des Juifs, il va apparaître, et en particulier aussi à Thomas. Alors, il se trouve que la porte de notre église est fermée. On a eu des petits problèmes, elle est fermée à clé. Ben, j'espère qu'elle sera ouverte pour dimanche prochain, quand le Christ ressuscité viendra. Le Christ vient ouvrir les portes petit à petit. Il nous faut du temps pour que cette grâce du ressuscité vienne jusqu'à nous. Voilà. Alors je voudrais avec vous méditer sur le disciple bien-aimé. Il voit et il croit. Alors lui, c'est comme instantané, on a l'impression que voilà, il voit, il croit. Et il nous rappelle le don de la foi. La foi est un don, une grâce qui est imméritée, qui vient comme ça. Puis ensuite, je voudrais qu'on médite sur cette affirmation. Nous vivons en ressuscité, dit saint Paul, mais c'est un long chemin. La foi qui est une grâce, un don, le don qu'ont reçu les baptisés dans la nuit, voilà, c'est aussi un long chemin. Et puis, sur ce chemin, il s'agit de prendre les bonnes dispositions. Saint Paul nous dit aussi, nous sommes, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des bonnes dispositions sur ce chemin de la foi? Alors le disciple bien-aimé, il voit et il croit. Alors il voit rien puisqu'il n'y a plus rien, quelques linges, et il croit en l'invisible. Il voit une absence, il croit en une présence. C'est en fait ce que tous les pèlerins à Jérusalem vivent comme expérience. Des jeunes vont partir de la paroisse cet été, je vais les emmener à Jérusalem, on va voir ce tombeau du Christ et il n'y aura rien dedans. Les chercheurs qui ont refait le petit édicule qui a été construit au début du 19e siècle pour protéger ce lieu où a reposé Jésus ont tous dit qu'ils avaient une grande émotion en faisant et en découvrant une plaque de marbre derrière, sous laquelle il y a le lieu où Jésus a reposé. Ça faisait la troisième fois qu'on découvrait ça en 500 ans. Ils ont fait part d'une grande émotion et pourtant il n'y a rien. Alors c'est vrai qu'ils ont découvert, paraît-il, un mur du tombeau originel et qu'on s'aperçoit que Hakim le fou, qui a voulu tout détruire, n'a pas tout détruit. On garde effectivement des traces du tombeau originel. Voilà. Mais cette foi qui voit et qui croit en l'invisible, qui croit qu'on a enlevé non seulement le corps de Jésus, mais qu'il est ressuscité, c'est un don. Alors quelle est cette foi? Notre foi en la résurrection de Jésus, elle est très particulière. Ce n'est pas d'abord une foi en une réanimation, ce n'est pas une near-death experiment. Jésus n'a pas été dans une mort clinique puis est revenu à la vie. Ce n'est pas le retour à la vie de Lazare, qui sentait déjà, qui était déjà dans la chambre froide depuis 4 jours, mais il est remort, Lazare. Jésus, c'est vraiment complètement différent. Lorsqu'il apparaît, lorsque la foi en la résurrection va nous apparaître, c'est Jésus lui-même qui montre ses plaies et qui nous rappelle que la mort en lui fait son œuvre, continue à faire son œuvre en quelque sorte. Elle est là qui laisse ses marques, les stigmates, le côté, mais elle est vaincue de l'intérieur. En lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. En Jésus, la mort qu'il a assumée jusqu'au bout, en descendant aux enfers pour aller chercher tous les défunts, eh bien la mort n'a plus de pouvoir. Et donc notre foi en la résurrection, c'est en la foi en Jésus, qui n'est pas seulement le premier de cordée, qui nous a ouvert une voie dans une espèce de montagne inaccessible, mais il est aussi le chemin, il demeure le chemin, il est ce chemin. En lui, la mort est vaincue. Et il s'agit pour nous d'entrer dans cette foi en Jésus, Fils de Dieu, qui a assumé l'humanité pour que notre humanité en lui demeure définitivement victorieuse de cette mort. En lui, la vie et l'amour ont définitivement vaincu. Alors, pour cela, pour méditer cela, je voudrais que, voilà, avec le Fils bien-aimé, le disciple bien-aimé, nous savons que nous avons reçu la grâce du baptême. Et puis, voilà, là, Marie, Karim, Philippe, plusieurs néophytes de la nuit ont reçu cette grâce. Voilà. Mais que nous comprenions comment il s'agit, cette grâce-là est un commencement. Il s'agit de la faire fructifier. Quand on regarde Marie-Madeleine, Pierre, les disciples d'Emmaüs, tous, il leur a fallu du temps pour croire en la résurrection. Simon-Pierre qui va au tombeau, il comprend pas. Marie-Madeleine, avant que Jésus ne lui apparaisse, elle reste tout en pleurs, que dans une espèce de dévotion désolée. Voilà. À la fois, il y a un désir et en même temps, une espérance qui n'est pas encore là. Les disciples d'Emmaüs sont tout tristes, ils sont désespérés. Et puis les onze qui vont s'enfermer au Cénacle ont peur, ne croient pas encore. Et donc on voit que finalement, la foi en la résurrection, c'est toujours une victoire. C'est toujours une victoire en nous, un passage des ténèbres à la lumière. Il y a toujours un combat. Il faut être plongé dans une mort, pour la mort de Jésus, pour vivre de sa vie pleinement. C'est un enfantement à une vie nouvelle. Quand un enfant naît, c'est assez beau. Il sort des eaux maternelles pour aller à la vie, comme un baptême. Il crie avec une première inspiration comme pour vivre du souffle de l'esprit pour la première fois, et puis on le nourrit comme on nourrit les néophytes avec l'Eucharistie. Voilà, c'est qu'un début. Il faudra que cet enfant, on le nourrisse, on l'éduque, on le fasse grandir. Comme pour nous, la grâce de notre baptême a besoin d'être nourrie, grandie, fortifiée. Baptême, c'est une porte d'entrée, c'est le commencement de la guérison de notre péché, le commencement de notre appartenance à la grande famille de l'Église, mais il faut trouver pleinement sa place, il faut y apporter notre pierre, il faut y donner ce que Dieu a mis en nous de talent. C'est le commencement de notre participation à la vie de Dieu, à notre union à Dieu, mais cette histoire d'amour, elle ne fait que commencer. Alors dans ce chemin-là, je voudrais nous exhorter à vivre cette foi en la résurrection comme une victoire, comme à répéter sur tous ces lieux où la mort, la morsure de la mort fait son œuvre. C'est la victoire sur, bien sûr, mon égoïsme. Voilà, les jeunes qui partent en maraude et les autres qui partent prendre du temps pour aller gratuitement à la rencontre des personnes défigurées, ils apprennent cette gratuité qui est une victoire sur notre égoïsme. C'est déjà la vie du ressuscité qui prend chair. C'est une victoire sur nos jugements qui fait qu'on regarde et on juge les autres par rapport à notre grille de référentiel. Il n'est jamais dans les clous, ça ne va jamais. Et non, avec Dieu, nous avons une victoire comme celle de Simon-Pierre qui rentre chez Corneille. Jamais de la vie, il a mis les pieds chez un païen. Et voilà que Dieu lui apparaît par trois fois, puis il dit « vas-y, vas-y ». Victoire sur ses jugements qui ne nous permet pas d'accueillir l'autre. Victoire sur la souffrance et la mort. Les chrétiens d'Orient qui sont persécutés nous rappellent ce signe fort. Ils préfèrent rester, affronter le danger au nom de la joie, de la foi. Victoire sur aussi la facilité, le confort. À chaque fois que le service l'emporte, comme les scouts, qui y avait un scout dans la nuit d'hier soir qui me disait « c'était crevant notre camp », il est revenu après le camp, paf, il est venu à la vigile pascale. Ça, c'est une victoire sur voilà, ce qui en nous est étriqué et nous enferme. Et puis, je voudrais dire un mot sur une victoire dont on ne parle pas trop, mais c'est la victoire sur l'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'on est en période électorale, on entend des incantations, des slogans, on a l'impression qu'on est vite pris par le « à quoi bon ?» On a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Or, le fait de former son intelligence, le fait de ne pas succomber à l'opinion ou au cri du plus fort, c'est déjà une victoire sur la liberté, une victoire sur le fait que, en nous formant, en partageant, on peut surmonter voilà, des idées reçues. Si on prend l'exemple de la souveraineté dont on entend tant parler, la souveraineté, elle ne peut pas être sacrée, elle ne peut pas être un absolu. La doctrine sociale a longuement médité, c'est ce qu'a vécu au fond le peuple élu. Dieu a choisi ce peuple élu, cette nation, cette culture pour façonner un lieu capable d'accueillir le Messie. Essentiel. Il y a eu la nécessité d'avoir ce peuple, cette culture pour accueillir le Messie. C'est une nécessité. Et en même temps, Dieu montre à Simon-Pierre que cette particularité doit être ouverte. Elle est pour tous. Va chez Corneille, ose la rencontre. Et lorsque la grâce de Dieu tombe dans un cœur, lorsque l'amour l'emporte définitivement, alors l'ouverture à tous est possible. Et donc la doctrine sociale nous fait méditer sur l'articulation entre nécessité d'une culture, d'un fondement, d'une identité, mais en vue d'une ouverture, en vue d'une victoire. Et cette victoire, c'est jamais un président qui pourra la réaliser. Il n'y a pas de sauveur, de président sauveur. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus. Et toute unité humaine à la force du poignet est vouée à l'échec comme à Babel. C'est en Dieu que va se réaliser cette unité. Et nous, nous devons être des artisans de cette unité. Non pas bâtir des murs, mais des passerelles par la grâce de Dieu. Voilà, le baptême est une grâce. Le baptême est une grâce qui nous donne d'avoir part à la victoire du ressuscité. Elle est un long chemin. Pas à pas, nous apprenons à être victorieux sur ce chemin. Et enfin, il y a des conditions sur ce chemin. Saint Paul nous dit « Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ ». C'est-à-dire que si je veux vraiment demeurer dans cette victoire de Jésus, il me faut demeurer uni à lui. Il me faut être viscéralement, radicalement, vitalement uni à lui, quotidiennement. Parler d'enfantement, de la vie nouvelle, qui est la grâce baptismale, c'est parler de ce lien vital à Dieu. Si je ne vis pas de la vie de Dieu par les sacrements, je ne pourrai pas persévérer sur le chemin. Sans la confession fréquente, la grâce de mon baptême s'abîme, s'étiole. Sans l'Eucharistie du dimanche, je perds la force vitale pour vivre en ressuscité. Sans la prière quotidienne, sans cette habitude de me laisser habiter par l'œuvre de Dieu dans le monde, ces merveilles cachées et si puissantes comme un ferment dans la pâte, c'est le monde dans toutes ces contradictions qui l'emporte en moi. En chaque sacrement, c'est le ressuscité qui vient au milieu de nous, qui agit. En cette Eucharistie, il est là au milieu de nous, qui veut à nouveau se manifester à chacun. Alors pour conclure, je voudrais nous engager profondément à oser ce beau chemin de la foi, à oser faire nos gammes. Il ne faut pas avoir peur des fausses notes, parce que si on est enraciné, fondé dans l'amour du Christ, alors on se jette dans ses bras quotidiennement. C'est pas grave, les fausses notes, la symphonie divine, elle est au bout du chemin. Le Christ nous le dit. Et ainsi, on peut croire qu'on est appelé à chanter l'exultet, à le chanter non seulement dans la vigile, la veillée pascale comme hier soir, mais dans toutes les nuits du monde que Dieu nous donne de découvrir, là où nous sommes, autour de nous, de pouvoir chanter cet exultet pour réveiller autour de nous l'espérance. Que Dieu nous fasse cette grâce profonde de pouvoir vivre la fidélité au ressuscité, avoir des têtes de ressuscité autour de nous en chantant cet exultet, en chantant ce chant de victoire par toute notre vie. Amen.